Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 31 de Dans le Mille. Comme vous pouvez voir, encore une autre semaine sans Jules. Comme d'habitude, on se croise les doigts pour la semaine prochaine, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais pour cette semaine, ça va être encore moi. Mais cette semaine, ça va être spécial parce que j'ai un invité qui vient me rejoindre. Je vais être joint tantôt par Olivier Gervais, un ancien gardien de but, puis qui est coach depuis la saison 2021-2022 pour les Stingers de Concordia, l'équipe féminine, qui est le coach et gardien de but. Et puis depuis cette saison, pour le Phoenix de Sherbrooke. Donc, j'ai vraiment hâte de parler avec lui. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous présenter nos deux partenaires. Quick Feet, des semelles de performance que vous mettez dans vos patins pour vous sentir plus à l'aise, plus stable dessus, comme le nom le dit, semelles de performance. Donc, ça aide à augmenter votre performance avec leur site. Vous avez le code sur la bande 10 pour 10% de rabais sur une paire de Quick Feet. Sinon, comme d'habitude, notre partenaire pour tout ce qui est recherche, Elite Prospect, le site de statistiques gratuit au hockey le plus complet. Puis avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais pour un abonnement annuel. Que déjà, le site gratuit est super complet, c'est super pratique pour les recherches. Mais en plus, avec le premium, vous pouvez comparer des joueurs, voir les anciens teammates de certains joueurs. Donc c'est vraiment, vraiment plus en profondeur. Mais écoutez, ce soir, je suis avec Olivier, comme j'ai dit avant. Donc, salut Olivier, comment ça va?
Salut Renaud, ça va super bien toi?
Ben oui, ça va, merci. Écoute, je l'ai dit un peu dans ton introduction, mais tu es un ancien gardien de but qui maintenant s'est un peu reconverti, si on peut dire ça, comme coach et gardien de but pour l'équipe de Concordia, puis écoute, plusieurs équipes avant dans le hockey masculin, mais maintenant avec le Phoenix de Sherbrooke. Fait que, tu sais, tu peux-tu m'expliquer un peu comment est-ce que tu es passé de joueur à gardien? Est-ce que quand le chemin pro a pas nécessairement marché, tu savais tout de suite que c'était dans le coaching que tu voulais aller?
Ah, Renaud, c'est une excellente question. Écoute, j'ai commencé à coacher, j'avais 15 ans. Fait que je jouais encore. Okay. Fait que ça n'a même pas rapport avec le pro. C'est une passion qui m'a toujours que j'ai toujours eue. Donc, j'ai commencé à 15 ans pour un aréna qui cherchait un coach de goaler à Laval. Puis je me souviens, mon premier client, un de mes premiers clients, justement, il joue universitaire maintenant. Il y a eu des cas NHL et tout, là. Puis, ce client-là, son père me dit, hey, je vais te donner 50$ puis t'entraînes mon gars. Moi, à 15 ans, j'ai 50$, ouais. Je vais le prendre. Puis, depuis ce temps-là, la passion est là, et non pas à cause de l'argent, là, mais à cause du coaching. Donc, j'ai continué à jouer jusqu'à 20, 21, sérieusement. J'ai été joué aux États-Unis junior comme gardien de but. Mm-hmm. Ça m'a amené en Californie, ça m'a amené à El Paso, Texas, une couple d'endroits quand même assez cool pour visiter aussi. Puis pendant que je jouais, ben les étés, je m'entraînais et pour payer mes trainings, je coachais. Donc j'ai coaché pour une école de hockey, je crois, jusqu'à l'âge de 19 ans, une école réputée là, qui existe encore. Puis après ça, là, je rentrais à l'université en business, puis là je me disais, hey, comment c'est sûr qu'il faut que je mette les deux passions ensemble, là, coaching et business et hockey. Puis c'est un peu de là qu'est venue l'idée là, de partir à une école de gardien. Donc j'ai mon école qui s'appelle Paramount Hockey. On est en business depuis que à peu près 2015, si je ne me trompe pas. Donc ça fait quand même déjà plusieurs années. Moi, ça fait déjà 16 ans, là, depuis que j'ai 15 ans que je coach, là, j'ai 31. Fait que ça fait plusieurs années. Puis écoute, oui, tu l'as dit, tu as parlé du Phoenix de Sherbrooke, junior majeur, de les Stingers de Concordia. Mais dans notre réseau Paramount Hockey, là, on est rendu 9 coachs, près de 600 gardiens de but par année, puis 25-26 programmes, dont oui, les Stingers. On a aussi l'Université McGill féminin, on a Bishop aussi dans la même ligue. Okay. On a des collégiales, on a des équipes là, à plus finir de tous les calibres.
Fait que finalement, si je comprends, quand une équipe, admettons, cherche un coach et gardien de but, puis il approche Paramount Hockey, est-ce que c'est comme Olivier qui vont chercher ou bien c'est plus l'école de gardien puis ils disent on a besoin d'un coach pour telle équipe?
Très bonne question, mais ça va dépendre. Là. T'sais, c'est certain que, par exemple, le Phoenix de Sherbrooke, sont venus chercher moi. Ouais. Ils n'ont pas passé à travers Paramount Hockey. Les Stingers de Concordia, un peu la même affaire. Mais McGill et Bishop, par exemple, deux équipes universitaires aussi féminines, eux, ils recherchaient des coachs. Puis, à travers nous, moi, mes connexions et tout ça, puis d'autres coachs autour, on a été capable de plugger nos coachs. Donc, par exemple, Alex, qui est à McGill, c'est grâce à une de nos gardiennes, une de nos anciennes... Ben, est encore gardienne. Elle veut essayer pour la Ligue professionnelle PWHL, ouais. Tricia. Elle, justement, est allée à McGill. Puis, elle m'a dit, cherchait un coach de goaler. Elle a dit, Oli, toi, je sais que tu es à Concordia. Y a-tu un autre coach qui serait intéressé? Fait que, tu sais, Paramount Hockey, c'est aussi ça. On crée des opportunités, oui, pour nos jeunes, mais aussi pour nos coachs. Là, fait que ça, c'est super cool.
Puis tu peux-tu m'expliquer un peu, sûrement que ça diffère entre les deux équipes, mais en tant que coach de gardien de but, c'est quoi en fait ton rôle dans une équipe? C'est sûr, travailler avec les gardiens, mais tu sais, est-ce que tu as un input aussi un peu au niveau stratégique ou est-ce que c'est purement aux entraînements juste avec les gardiens?
Je te dirais, Renaud, là, mettons junior majeur, tu es sur la glace 5 à 10 % de ton temps. Fait que t'as à peu près un 90-85% que. T'es dans le bureau avec les autres coachs. C'est sûr que en tant que coach de gardien de but, mes tâches sont quand même assez précises là. Fait que tu scoutes les équipes adverses. Fait que par exemple, on joue contre Drummondville qui sont à Memorial Cup en ce moment. Ouais. Tu joues contre Drummondville, ben là tu veux comprendre c'est qui Mercer, tu veux voir c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses. Donc là c'est certain que tu fais du pre-scout. Tu vas regarder plusieurs matchs de lui, puis tu vas faire ça pour les joueurs, pour l'équipe. Ensuite de ça, ben, veux pas, faut que t'améliores. Ta job, c'est d'améliorer tes goalers. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est cool, c'est que oui, on a de la glace, mais, tu sais, la plupart toutes les équipes juniors font du vidéo. Nous, on a un super cool vidéo room. Moi, j'amène mes goalers là. Des fois, ça va durer 40 minutes. Des fois, ça va durer 3 minutes. Tu sais, je veux dire, ça va vraiment dépendre qu'est-ce qu'on veut travailler puis qu'est-ce que je veux leur montrer. Puis souvent, tu sais, moi, c'est quelque chose qui est super important. Là, tu sais, oui, la communication, mais que ça passe des deux bords. Fait que si, mettons, on va dire cette année, j'avais Samuel Saint-Hilaire, Sam, il voulait avoir tel type de jeu, ben ça venait de lui et non de moi. Tu sais, c'est une relation de même que tu crées. Sinon, dans tes tâches, je te dirais que tu es goalie coach, tu es quand même impliqué dans les stratégies. Donc, surtout dans infériorité numérique. C'est sûr, sur le power play, nous, notre coach de power play, c'est un ancien goaler. Puis, tu sais, des fois, c'est hey, tel goaler, tu sais, voici le scouting, voici comment on va le battre. Fait que lui, il ajoutait ça à son power play, mais je te dirais que c'est plus dans le piqué infériorité numérique. Là, tu vas justement travailler avec le coach dans les stratégies parce que ton gardien de but, il est impliqué là, à 100%. Fait que est-ce que tu veux que le défenseur joue de telle façon, même affaire que les attaquants? Fait que, tu sais, t'as un job qui touche un peu à tout, mais surtout, bon, unité spéciale, tes gardiens de but et le scouting des équipes adverses.
Puis j'imagine qu'entre les deux équipes, ce que tu fais, en fait, la tâche, c'est assez similaire pour les deux?
Oui et non. Oui, mais mettons, avec Concordia, c'est vraiment moins, beaucoup moins d'implication. Fait que Sherbrooke, tu sais, t'as donné un peu une idée d'un horaire de semaine. Le mardi matin, je vais être avec les seniors, je vais être avec les filles à Concordia à Montréal. Le soir, je pars à Sherbrooke pour être le lendemain matin à la pratique du mercredi. Ouais. Qu'est-ce qui est cool, comme je t'expliquais, Renaud, là, on a une équipe de 9 coachs. Un de nos autres coachs qui n'est pas impliqué à McGill, pas Bishop, là, pas de conflit d'intérêt, là, Michael. Michael Dupont, c'est un ancien gardien de but drafté à Philadelphie. Il a joué professionnel en Europe. Puis lui, il est coach à temps plein avec nous, donc il m'aide avec les seniors. Fait que par exemple, le mardi, c'est moi. Le mercredi, depuis cette année, à cause que j'ai Sherbrooke, là, l'équipe Julie et Caro, ils ont accepté d'avoir un deuxième goalie coach. Lui, il est là, il va faire plus de skills, moins de stratégie. Puis après ça, les games, moi, je vais vraiment essayer de faire les deux, là, balancer là, Concordia et Sherbrooke. In-game, je te dirais que je suis vraiment plus. Surtout à Concordia, vu que je suis moins présent qu'à Sherbrooke, que tu es tout le temps dans le bureau.
Ouais, ouais.
Je te dirais que je suis vraiment plus impliqué gardienne. Donc, moi, je m'occupe de mes gardiennes. Je m'occupe vraiment de leur bien-être, de leur développement, de s'assurer que, tu sais, qu'ils sont prêtes. Même pendant que je suis à Sherbrooke, souvent, je vais faire mes séances vidéo en ligne. Exactement comme qu'on fait en ce moment. Sauf qu'on ne l'enregistre pas pour pas que tout le monde le voie. Mais. Et ouais. Puis c'est ce qui a fait, honnêtement, notre sauce secrète, vu que ça fait 3 ans qu'on gagne. Ouais. Fait qu'on peut pas. On va pas dire tout ce qui se passe dans ces hommes-là.
Puis, comment est-ce que tu trouves que le niveau de... Ça, c'est plus une question au niveau de hockey masculin, parce qu'au hockey universitaire, ça fait plus longtemps que tu es établi, mais hockey, la GMQ, c'était ta première année comme coach et gardien de but. Comment est-ce que tu as trouvé que les ressources étaient comparées au niveau plus bas? Tu sais, ça doit être quand même des facilités de plus haut niveau.
C'est incroyable. Pour vrai, là, les gens, mettons, on va dire, toi, Renaud, avec ton partner, peu importe, vous venez voir une game. Tu sais, toi, tu arrives là, tu payes ton billet, tu vois la game finie. L'immensité, le travail derrière tout ça, c'est immense. Pour de vrai, là, tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas le comprendre. Ouais. C'est certain que j'ai coaché des gardiens juniors. Avant, j'ai coaché des gardiens pros. Là, je me suis pas ramassé là-bas comme ça. Là. J'ai fait mes preuves avant. Mais le fait de coacher une équipe junior avec les ressources que tu as, ça m'a tellement aussi aidé pour tout le volet Paramount, le volet business, parce que maintenant j'ai accès à des outils que t'imagines-toi là, bon, on regarde la game Dallas contre Edmonton, là, moi après ça, pendant la game, après la game, je peux te sortir toutes les séquences de XYZ, j'ai des filters, c'est malade, juste les outils pour analyser tes games. Puis le même logiciel, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu l'as dans le junior. Fait comme je te disais plus tôt, tu peux analyser ton gardien de but sur toutes les lancers qu'il y a eu un rebound à sa gauche. Ouais. Si, ça. Puis toi, en tant que coach, ben, tu sauves du temps. Fait que tu peux vraiment te concentrer à trouver la meilleure stratégie, un, pour le battre ou deux, pour corriger tes propres gardiens. Versus, tu dis les autres niveaux plus bas, mais juste universitaire. On n'a pas accès à tout ça. Fait que, tu sais, oui, tu as accès à du vidéo. Mais c'est pas coupé, c'est pas avancé, tu n'as pas de filter, de fil pour tout trouver les séquences que tu veux. Donc, c'est deux games différents. Ça te permet de beaucoup plus aider les gardiens au niveau junior parce que tu as tous les outils que tu peux pas avoir, les mêmes qu'ils ont dans la Ligue nationale. Fait que c'est certain que le développement se fait beaucoup plus facilement et plus rapidement. Rapidement, mais efficacement là, versus... Ouais. Là,
c'est comme le plus optimisé au possible. Hein. Mais c'est ça, comme tu disais, c'est sûr que même nous, ici, ça a été notre première année en tant que média où justement, on a pu voir un peu derrière. Puis, on n'a vraiment pas vu énormément, là, mais juste au début, ça paraît là, à quel point l'organisation est énorme. Puis, on le voyait aussi dans le... Je sais pas si tu as vu le reportage que Rad avait fait sur les Voltigeurs de Drummondville. Là, ouais. Écoute, c'était pas un sujet super positif, mais ça permet quand même de voir comment l'équipe roule derrière. Puis, tu sais, juste à quel point ils sont impliqués aussi dans les études. Là, c'est tellement de facettes d'une équipe de hockey junior.
Puis ça, Renaud, tu sais, je suis content que tu amènes ce point-là. Parce que tu sais, nous, on a encore des goalers autant qu'ils prennent le chemin NCAA, le chemin américain versus le chemin québécois junior, puis j'ai québécois, mais que ce soit canadien, là, OHL ou WHL. Puis c'est malade le nombre de ressources que ces jeunes-là y ont. Tu sais, je ne veux pas parler des autres équipes. Juste nous, à Sherbrooke, bon, t'as ton conseiller scolaire. Fait que, tu sais, s'assurer que les gars, ça va bien à l'école, s'assurer que, tu sais, les gars, ils coulent pas. Puis si les gars, ils ont des problèmes sur n'importe quoi, le conseiller est là. T'as même on l'appelait Chapel, là. Fait que les gars, s'ils veulent juste se confier, parler, peu importe, on a quelqu'un qui est là pour ça. Fait que, tu sais, le côté émotif, boum, il est là. Le côté scolaire, boum, on l'a. D'un autre côté, t'as ton préparateur physique. Que lui, tu sais, il fait des suivis en ligne, il fait des suivis sur place. Il est là pour les gars. Des fois, il est là avant un match, des fois, il n'est pas là. Ben, après ça, tu as ta thérapeute, tu sais, tu as ton gars d'équipement qui c'est NHL. Tu sais, le gars, il arrive à 5h30 le matin, il part à 6h le soir dans les journées de pratique. Puis les journées de game, on n'en parlera pas parce que on va se retourner dans notre tombe. Mais tu sais, tout ça pour dire, c'est incroyable le travail, les ressources. L'encadrement pour ces jeunes-là, tandis que, tu sais, juste nous, les coachs, là, on va arriver à 6h, 6h30 à l'aréna. Pratique, et on est sur la glace à 10h. Oui, tu as des petits meetings avant ou peu importe, tu fais du vidéo. On n'est pas parti avant 2, 3, 4 heures des fois, là. Fait que, tu sais, je veux dire, puis les gars, eux autres, ils arrivent, font leur petite affaire, pratique. Merci, bonsoir, c'est fini. Fait que tout le build-up qui est autour de ces jeunes-là, c'est incroyable comment ils sont dans un environnement qui peuvent se développer puis qui peuvent vraiment, là, s'ils veulent passer au prochain niveau, en tout cas, ils ont tous les outils pour le faire.
Puis là, je suis curieux, écoute, je ne sais pas encore si tu vas avoir une opinion là-dessus ou un aperçu plus gros, là, mais tu as parlé que tu travaillais un peu avec des gars qui avaient choisi d'aller en route NCAA. Puis cette semaine ou la semaine passée, on a eu la nouvelle comme quoi maintenant la NCAA va pouvoir payer leurs joueurs. Écoute, c'est sûr que chaque université a tellement d'équipes de sport, puis on ne sait pas encore comment ça va être réparti, mais d'après toi, tu penses avoir un impact de voir encore plus de joueurs québécois partir aux États-Unis?
Oui, ça c'est certain. Puis veut pas, tu sais, la NCAA, c'est une ligue très prestigieuse, que tu sois en division 1 ou division 3, là, au hockey, tu n'as pas de division 2. Même des divisions 3, c'est incroyable les talents qui vont jouer là.
Ouais.
C'est sûr que je crois que ça fait trop, je ne sais pas exactement, là, je ne vais pas m'avancer, mais peut-être 3, 4, 2, 3 ans, tu sais, il y a eu le nouveau règlement, le NIL, que les joueurs NCAA ils peuvent leur name, likeness, toute leur brand et leur image, ils peuvent le monétiser. Ça veut dire que si, mettons, Nike veulent te payer, toi, Renaud, tu es un athlète de basketball, ils pouvaient, tu sais, tu peux avoir un sponsorship avec eux. Et ça, ça l'a fait ouvrir des portes, là, c'est incroyable. Là, tu as eu la nouvelle qu'ils parlent, vu qu'à cause de ça, ils parlent que peut-être les joueurs juniors majeurs vont pouvoir aller jouer entier. Fait que là, un, ça vient de tuer les U Sports, ça vient de tuer les universités canadiennes. En tout cas, peut-être pas tuer, mais ça va diluer parce que
ouais, c'est
je veux pas, mettons, un top joueur qui va avoir un full scholarship à Princeton versus qui s'en va jouer à Concordia. Tu sais, des fois, à moins qu'il veut rester proche de sa famille, son programme scolaire, tout ça. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. C'est pas pour tout de suite ce que j'entends, là, ça va prendre encore quelques années pour ça. Mais du côté que ça a été annoncé, là, j'ai vu ça cette semaine ou l'autre semaine avant, le fait que les athlètes NCAA maintenant vont être payés. Mettons, t'es un top, tu sais, on va dire un Anthony Duclair, que lui, il s'en allait à NCAA. Finalement, il a été rapatrié par les Remparts de Québec. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est de quel bord tu t'en vas? Ça va créer une petite guerre, c'est certain, là.
Oui, oui. Puis même, écoute, ça, c'est un sujet pour plus grand, là, mais c'est pas la dingue non plus. Mais pour les équipes LNH aussi, admettons les gars de NCAA qui se font repêcher. Puis on a vu, ça arrive moins souvent maintenant, mais des gars à la Adam Fox qui décident de hey, je vais aller faire battre toute mon éligibilité pour que l'équipe LNH me signe, jouer jusqu'à 21-22 en NCAA pour après ça pouvoir signer avec l'équipe que je veux. Ben, maintenant que c'est payé, ça donne une raison de plus aux gars pour le faire. Mais bon, pour revenir à du hockey...
Mais les règlements...
Ah, vas-y.
Tu sais, juste rapidement là-dessus, Renaud, honnêtement, les règlements, c'est sûr qu'ils vont s'adapter.
Ouais, tu penses?
Oh, 100%. 100% qu'il y a plein de règlements qui n'auront pas le choix d'adapter parce que sinon, ça ne devient pas fair pour une équipe de la Ligue nationale qui recrute un jeune. Puis maintenant, il y a tellement de latitude côté monétaire. Fait que là, sa décision va aller à l'encontre ou contre les intérêts de cette équipe-là de la Ligue nationale. Fait que tout va être adapté, tout va aller pour... Ils vont trouver une balance là, pour que les deux ça fonctionne. Puis le dernier point pour la NCAA, il faut juste imaginer un gardien de but. Genre, on en a des gardiens de but là, qui jouent NCAA, 6 pieds 6, 6 pieds 7. Excuse-moi, là, un gars de cet âge-là. Là. Nous, nos goalers, là, j'ai dit cet âge-là, mais de cette grandeur-là, nos goalers de cette grandeur-là, à 19 ans, ils ont commencé à être bons.
Ouais,
ouais. 20 ans. Fait que, tu sais, t'es bien mieux d'aller jouer universitaire pour ce type de joueur-là, que tu vas jouer jusqu'à tes 23-24 ans. Ah, oh, là, t'es prêt pour le pro versus à 20 ans, tu sors puis t'es pas prêt. Fait que je te dirais que le junior majeur pour une certaine clientèle, plantier pour un autre type de clientèle, puis moi, je suis pas là à dire qu'il y en a une meilleure que l'autre. Je trouve que les deux, c'est des options incroyables. Mais c'est certain qu'il y en a qui ont leur... NCAA, ils ont leur force. Junior, ils ont leur force. Puis les deux, ils ont leur faiblesse aussi.
Puis là, j'ai vu, il y avait... Écoute, c'était juste vraiment une discussion. C'est pas comme une nouvelle, mais il y a deux ans, je me souviens d'avoir lu un débat sur est-ce que dans la CHL, en fait, au complet, est-ce qu'on devrait donner une année d'éligibilité de plus aux gardiens de but, tu sais, une année de plus pour jouer quand les joueurs doivent arrêter à 21? Bien, en donner une autre année au gardien de but. Puis là, tu avais l'argument de comme, ben oui, parce que justement, comme tu dis, ça prend plus de temps un gardien de but pour qu'il rentre un peu dans son top form, là, surtout quand ils sont grands. Quand ils sont grands, là, on pense à comme des Quentin Miller. Ouais. Mais en même temps, après ça, les petits comme William Lasselle, tu sais, si les joueurs de gardien de but peuvent jouer jusqu'à 21-22, est-ce qu'on va en avoir justement qui vont avoir leur chance un peu moins vite? Fait qu'est-ce que ça va nuire au développement des jeunes? Toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ça?
Au contraire, moi, je pense que ça va bénéficier au développement. Tu sais, justement, un gardien de but, là, son prime time, là, on parle de 23-24 ans.
Okay.
Fait que, est-ce que ton prime time, tu veux le pogner dans la Ligue américaine ou tu as 4 ans dans la Ligue américaine ou East Coast, quoi que ce soit, puis à un moment donné, il y a l'intérêt là-dedans. Il y a des jeunes qui perdent l'intérêt. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans ces âges-là. Moi, je pense, si je trouve que c'est une idée fantastique, honnêtement, de donner un an ou deux d'éligibilité de plus aux jeunes, parce que on a vu trop de jeunes, puis je suis pas ici pour nommer de nom, là, mais on a vu trop de jeunes, après un année midget 3, goaler, jouer tout de suite junior majeur, que ça a fait à rien. Rien. Pourquoi? Parce que le jeune, il a pas fini de se développer. Il faut qu'il joue dans un calibre qui est encore capable d'aller chercher certains skills. À 15 ans, là, t'es pas complet, là, comme gardien de but, là. Fait que si tu joues grâce à, on va dire que cette année-là, des GBT, ben là, le gardien de but, il aura plus la pression de dire, OK, ben moi, je vais jouer un an, mais j'ai 3, puis je m'en vais tout de suite junior. Non, on va faire mes 2 années, mais j'ai 3, ou mes 2 années prep, ou peu importe où qu'il joue. Puis après ça, vers 17 ans. Tu sais, Samuel Saint-Hilaire, c'est un meilleur exemple.
Ouais.
Il a joué Midget Espoir. Il a joué Midget 3. Il a tout battu Midget 3 comme un deuxième année Midget. Après, il s'en vient junior. Il a été backup à Sherbrooke. L'année d'après, pogne le lead. Puis sa progression, pour moi, est parfaite. Tu sais, j'en ai fait plein d'entrevues là, pendant Noël là, qui a été à Team Canada. Puis tu sais, les RDS de ce monde, les radios, les journaux. Puis tout le monde me demandait ça. Puis je répondais à la même affaire. Sa progression, le fait qu'il a pris un step at a time et non sauter trop vite, ça le joue en sa faveur. Il y en a d'autres, ça les a, lui.
Ouais. Puis justement, pour parler un peu de ton équipe, là, parce que c'est quand même incroyable ce que l'équipe a réussi à faire en série, là, t'sais, perdre en 6 matchs contre l'équipe qui, justement, en ce moment, est à la Memorial Cup, quand il y a beaucoup de personnes qui disaient que même juste en première ronde, ça serait fini. Je veux que tu m'as parlé un peu de à quel point est-ce qu'il se passe plein de trucs derrière, mais je veux que tu me parles un petit peu, c'était comment l'énergie dans l'équipe pendant ce run-là des séries, puis tu sais, comment c'était avec les gardiens de but, parce que ça a été vraiment une partie clé de pourquoi est-ce que le Phoenix s'est rendu autant loin puis a autant bien performé, que ce soit contre Blainville ou bien contre Drummondville.
100%, ben merci de le dire qu'on a bien performé, là, on a eu, honnêtement, quand on regarde en arrière, on avait, je pense, 13 recrues cette année. Fait qu'on est en reconstruction de l'année avec les Josh Roy de ce monde et tout de l'année dernière. Là, cette année, 13 recrues, des jeunes, puis j'ai 13 recrues, là-dedans, il y a des gars de 19 ans ou 18 ans que ça jouait du junior 3, ça jouait du collégial. Mm-hmm. Tu sais, on n'avait pas une équipe sur papier qui était incroyable. Puis nos gardiens de but, ils ont fait un job phénoménal en début de saison, qui a fait en sorte qu'ils nous ont tenus. Puis c'est certain que, tu sais, on avait des décisions à prendre au temps des fêtes. Puis c'est pour ça qu'on a gardé notre équipe, parce qu'on croyait qu'on avait le noyau. Ça partait de nos gardiens de but avec nos défenseurs puis nos attaquants. Le corps de vétérans là, qu'on avait avec les 13 recrues, on croyait vraiment pouvoir faire un gros statement en série. On l'a fait malgré qu'on a perdu notre meilleur joueur qui était Mianscom, que lui a fini dans les tops de la Ligue. Blessé, donc il a pas pu finir. Puis ben Sam aussi s'est blessé. Là, il a joué avec une blessure, puis à la fin, c'est pour ça qu'on a mis Jacob. Jacob Brochu, c'est un gars qu'on il jouait. T'sais, l'histoire est tellement belle. Lui, il jouait junior 3. On a eu que des bons mots de ses coachs. Puis au moment des fêtes, on avait certains gardiens de but dans le système qui sont venus gauler là, à Sherbrooke. Ça n'a pas été espéré des deux côtés. C'était des super bons kids, des super bons travaillants. Ça n'a juste pas marché. Puis là, Jacob, on a eu le mot d'entre les branches des anciens coachs et tout ça, que essayez là. Fait qu'il est... OK, on l'a essayé sur la glace. Puis 2 jours après, c'est comme bon, de ton baptême à Québec devant la plus grosse foule de l'année. Je pense que c'est comme 16 000. Puis le kid, Colin, on a perdu en fusillade. Puis c'est là qu'on a vu, lui, c'est un gamer. Puis moi, ma job, je te dirais, Renaud, de décembre, janvier, jusqu'à la fin de l'année, en sachant que, tu sais, Sam, on ne sait jamais, là, je veux dire, avec son petit bobo qu'il avait, est-ce qu'il était capable de gauler jusqu'à la fin? Puis avec Team Canada, puis notre autre gauleur, Mathis Routier, il s'est blessé, là, pendant le temps des fêtes aussi. Fait que, tu sais, Jacob, on se préparait comme si c'était un numéro un. Puis moi, je travaille de même avec tous mes gardiens de but, là. Que ce soit notre troisième, notre premier ou même à Concordia. C'est tous des numéros un. Mais Jacob, il a du feu. Lui, là, son cœur, il est gros de même. Il a du feu. Ça. Il voulait absolument aider cette équipe-là. Lui, là, sa job, là, il s'en foutait de lui personnellement. Il voulait juste trouver le moyen de ses performances aide cette équipe-là. Puis ça fait en sorte que quand Samuel, Sam, il a bien fait à Blainville. Il a même, tu sais, on a perdu les deux premières games à Drummond, mais c'est Sam qui nous a tenus dans la game avec des gros saves et tout. Puis là, quand Jacob il a été appelé à rentrer dans le filet, là, première game, ça a été tough. Quand il a remplacé Sam après le warm-up, je pense qu'on a perdu 7-1. Puis entre la 2 et la 3, écoute, mon discours, c'était clair. Lui, il l'a tout de suite catché. Il a laissé un but en troisième. On a perdu 7-1. Game après, un but sur 43, première étoile. Game après, à Drummond. J'ai honnêtement jamais vécu un crowd aussi loud. Le monde, et nous, moi, je suis avec mon GM, avec Tricia, notre fille vidéo, là, qui est une de mes gardiennes en plus. Le monde nous pitchait quasiment des popcorns quand on se faisait scorer, puis nous criait des insultes. C'était le fun, là. C'était une belle rivalité. Puis écoute, on a gagné une game, je pense, un moment on perdait 3-0. Puis Jake a fait des arrêts incroyables. Mmh. Il a fighté, là, je ne sais pas, Renaud, si tu as vu un peu les highlights de ce game-là, là, mais c'était fantastique. Puis écoute, on est revenu à la maison, on avait l'énergie et tout, mais une équipe jeune comme qu'on est versus une équipe comme Drummondville, écoute, c'est une équipe incroyable aussi, là, les voltigeurs. Puis il est arrivé ce qui devait arriver. On l'a repoussé, l'élastique un moment donné a pété, mais je pense qu'on a pris énormément de bagages positifs en tant qu'équipe. En tant que coach, on avait un coaching staff nouveau. T'sais, head coach Gilles, oui, il arrivait de là, 5-6 ans dans la Ligue américaine. Il a coaché junior majeur avant et GM. Avec l'équipe, c'était nouveau. Il ne connaissait personne. Ouais. Notre GM, il était nouveau. Phil Sauvé, un ancien agent et ancien gardien là, NHL. Moi qui étais nouveau. Fait que, t'sais, ça a été un super beau bagage, super positif. Puis on a hâte à l'année prochaine là, de continue qu'on a laissé là, en fin d'année.
Puis là, tu parles de brochure, c'est comme, tu sais, quand on parle de rappel, là, c'est vraiment, on peut pas espérer pour mieux, mais tu sais, en général, dans la GMQ, tu deals quand même avec beaucoup de jeunes, surtout vous, avec votre situation de gardien où il y en a plusieurs qui se sont blessés. C'est-tu un défi, là, tu sais, de rappeler un gardien, puis en peu de temps, l'évaluer, savoir, OK, est-ce que ça marche, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le renvoie, est-ce qu'on essaye une autre option?
C'est de la gestion. Je ne vais pas te le cacher, c'est de la gestion. C'est aussi, tu sais, notre job en tant qu'entraîneur de gardien de but, c'est aussi de voir le développement de ces jeunes-là. Donc, si le jeune jouait collégial, si le jeune jouait midget, si le jeune joue junior 3A, tu dois le suivre, tu dois voir qu'est-ce qu'il y en est. Moi, étant nouveau, je ne les connaissais pas. Tous nos backups, là, j'en connaissais aucun. Je regardais ce qu'ils faisaient, mais je n'avais pas nécessairement de contact avec eux quotidiennement, bien, hebdomadairement. Par la suite, il y en a un qui a fait des up and down. Lui, j'ai continué à garder. Hey, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? As-tu besoin d'aide? Hey, check, j'ai vu ça sur tes vidéos. On va travailler ça, si tu reviens ou sinon. Check ça avec ton coach. Mais je te dirais que la gestion de jeunes, avec une équipe jeune, on va dire que tu t'en vas gauler à Bécamo, tu es un jeune. T'sais, je veux dire, c'est déjà plus facile que de commencer à gauler, mettons, avec Sherbrooke. Équipe est un challenge. Mais en même temps, c'est ça qui était le fun cette année dans la Ligue. Il y avait quand même beaucoup de parité. Fait que un St. John pouvait battre un Bécomo. Ouais. Un Victoriaville pouvait battre un Armada. Un Sherbrooke pouvait battre un Drummondville. Fait que c'est qu'est-ce qui était cool. Mais je veux dire, pour un jeune, c'est tough être lancé dans le feu de l'action comme ça, là.
Puis là, pour switcher un peu à ton travail justement plus universitaire, fait que dans le hockey féminin, je me demandais en 2021-2022, quand tu as été nommé comme coach et gardien de but pour Concordia, est-ce que c'était ta première expérience où tu coachais vraiment une équipe de hockey féminin au complet?
Féminin, 100%. Tu sais, chaque année, je coachais des filles, plus des jeunes filles. Puis là, cette année, ça faisait couple d'années, je coachais Alice Filbert, qui était la gardienne de Concordia. Je crois qu'elle était à sa troisième année. Puis là, eux autres, leur coach de goaler, il a quitté. Puis là, Alice m'a demandé, on faisait une pratique, elle m'a dit, Ali, ça t'intéresserait-tu? Oh, why not? OK, on va le faire. Puis là, j'ai une entrevue avec Julie Chu, que si les gens la connaissent pas, là, c'est une capitaine de Team USA. Elle est Hall of Fame, a été à Harvard NCAA, là, une super belle carrière. Fait que, moi, de rencontrer Julie comme ça, c'était super cool. C'est quelqu'un que je connaissais de nom, de réputation, mais jamais de parler. Puis nos valeurs étaient parfaitement, là, ils coïncidaient parfaitement dans tout ce qu'on avait comme vision d'équipe, vision de développement personnel et tout ça. Fait que le match est fait. Ça a pris une entrevue. C'était fait. J'ai accepté et elle m'a accepté là, dans l'équipe. Puis, tu sais, l'autre coach, c'est Caroline Ouellette, qui est, bon, pas besoin de dire c'est qui. Puis, tu sais, Caro, elle a un caractère un petit peu plus stiff comme moi en tant que coach. Puis, le côté humain, moi, je suis beaucoup plus proche de mes goalers comme Julie. Fait que, tu sais, c'était comme un match, comme si les deux, il y avait un petit peu des parties de ma philosophie de coach et aussi de personne de tous les jours. Fait que ça a vraiment bien été. Puis, tu sais, cette année-là, Alice, c'est une des étudiantes les plus parfaite que j'ai jamais eue. Elle, tu pourrais dire, go, là, la main de même, puis de même, puis elle va l'essayer, tu sais, puis elle va te dire, hey, Renaud, j'aime pas
Ça marche
ça, ça
pas.
marche pas. Ça marche pas trop, mais, tu sais, c'est ça qui était cool, puis écoute, ça l'a mené à la fin de cette saison-là, les 10 dernières games, elle a fait 7 blanchissages. Tu sais, Alice, c'est une bonne gardienne de but, mais ce que j'entendais, c'était pas la top. Puis cette année-là, la confiance, la relation et tout ça qu'on a créé au cours de toute la saison, ça fait en sorte qu'elle est devenue la meilleure de la ligue, puis selon moi, la meilleure au pays. Écoute, 7 blanchissages en 10 games, puis c'était pas des games de 10 shots, là. C'était des games de 25 shots, 30 shots, 35 shots, dont au National, elle a laissé 0 but en 3 matchs à l'Île-du-Prince-Édouard, qui nous a fait remporter un premier championnat depuis je sais pas combien de temps pour Concordia, là. Fait que ça a été une belle médaille d'or. Année 2, elle jouait dans notre ligue, là. Peut-être que tu es au courant de la LSHL, qui est une ligue d'été là pour professionnels, donc hommes, disons femmes. Puis on est 3 cofondateurs, puis Zach, Alex et moi. Puis Alice, elle a joué là, puis elle a eu un petit bobo, fait qu'elle a mal commencé la saison. Après Noël, là, c'est là qu'elle a remonté jusqu'au National cette année-là, c'est à Montréal. On a perdu en prolongation à 2 points, 1,8 secondes en troisième. Ils ont égalisé. Puis à comme 12 minutes en prolongation, on a perdu. Donc, on a gagné la médaille d'argent, mais elle, Renaud, là, on n'en parle pas.
Ouais, non.
On n'a aucune idée de cette médaille-là est où. Puis on n'était pas. Ça a été crève-cœur cette année-là. Puis là, Alice est partie jouer avec les gars en
Ouais.
France, senior. Puis là, cette année-là, on a eu Ariane Leblanc, Jordan qui était là les autres années, est arrivée en même temps que moi. Puis Ariane et Jordan, les deux étaient nos numéro un. À la fin, on a décidé d'y aller avec Ariane, qui était une recrue. Les meilleures statistiques, je pense, c'était quasiment au Canada, là, deuxième au Canada ou quelque chose comme ça. Puis, elle s'est blessée, première game de playoff. Jordan embarque. Elle a fait une job phénoménale. T'sais, on avait deux numéro un. Fait que peu importe qui goalait, c'est un pile ou face. Puis Jordan, elle a laissé 2 buts au National. On a gagné encore, fait que 2 médailles d'or et une médaille d'argent en 3 ans là, au pays, fait que c'est quand même très cool là. On a une belle organisation.
Puis quand ça, Ariane, on l'a reçu au podcast il y a peut-être un mois de ça, fait qu'elle nous
OK.
avait parlé un petit peu de, tu sais, comment rester impliqué malgré sa blessure. Mais toi, c'est quoi que tu lui as dit quand elle s'est blessée? T'as-tu travaillé un peu avec malgré le fait que, tu sais, on savait qu'à cause de son genou, elle pourrait pas jouer des séries?
C'est trust the process. C'est vraiment cette mentalité-là qu'on avait ensemble. On la gardait prête parce qu'elle n'a pas joué des séries, mais elle était backup au National. Fait qu'elle aurait pu goaler. C'est certain qu'on vient de gagner playoff avec Jordan. Puis on a vraiment là, hésité entre les deux là, à la fin de la saison. Fait qu'on a donné les games à Jordy. Mais à Ariane, je veux dire, c'était de la garder prête. C'était surtout son moral. Comme tout athlète, c'est très difficile d'être dans cette situation-là, surtout qu'elle avait une année de conte de fées, là, une année de rêve là, comme première année là, dans le circuit. Mais non, c'est de la garder dialed in, comme on dit. Puis, trust the process, les bonnes choses vont arriver. Focus sur ce que tu peux focuser, ton rehab, ton recovery. Puis, elle a fait ça comme une pro. Puis honnêtement, on est chanceux d'avoir deux gardiennes à la tente de Jordy et Ariane. C'est incroyable.
Puis, tu sais, quand on parle de hockey féminin, cette année, ça a été une année où ça a monté en popularité. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, un peu, cette ascension? Puis en plus, à Concordia, à la fin de l'année, vous avez eu beaucoup, beaucoup plus que d'habitude d'attention médiatique à cause de la saison invaincue. Comment c'était d'être là-dedans? Puis qu'est-ce que tu penses, tu sais, de la montée du hockey féminin en général avec la LPHF?
Ben, je pense que c'est la meilleure chose qui ne peut pas arriver, justement. T'sais, tu peux voir mon chandail, ça, c'est au basketball, ouais. La WNBA. Je pense que c'est cool de voir, si on parle juste WNBA, c'est cool de voir des femmes à 250 000 pour jouer le sport qu'ils veulent, qui rêvaient depuis qu'ils sont jeunes. Fait que de voir ça pas par pas, petit pas par petit pas pour la ligue féminine ici là, qu'on a de hockey, moi, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Mm-hmm. Je pense que c'est aussi une bonne chose qu'ils ont quand même pris leur temps d'évaluer là, plusieurs années. Tu avais la PHF. Puis justement, j'avais signé pour être goalie coach là, pour l'équipe de Montréal, PHF, qui était l'équipe pro, qui était runnée avant par Kevin Raphaël. Puis, fait que moi, j'avais mon poste. J'ai rencontré mes deux gardiennes, qui est Corinne Shorter, une des meilleures de la Nouvelle Ligue. Puis c'était Lauren Bench, qui était à Minnesota cette année, je pense. Fait que c'est nos deux gardiennes à Montréal. J'y rencontre 30 minutes après, boum, la ligue est fermée. Ah. Fait que là, je texte les filles, j'ai « Sorry guys, I didn't know ».
Ouais.
Puis finalement, tu sais, ça l'a leadé vers quelque chose de très bien. Ça a été dur au début, parce qu'on avait des filles qu'on entraînait qui étaient dans PHF, qui n'ont pas trouvé de spot dans la nouvelle ligue, la P-Dub. Ça a été difficile. Beaucoup de filles avaient des appartements, ils ont acheté un condo, ils ont ça. Fait que on dirait que ça a comme donné un gros coup au hockey féminin. Puis après ça, de voir l'engouement que ces filles-là ils ont pu avoir avec autant la game au Centre Bell que les salles combes à la Place Bell, les playoffs, les... Tu sais, je pense que le hockey féminin... J'aime pas ça dire le hockey féminin, là, mais ma blonde, elle me dit tout le temps, c'est le hockey joué par les femmes. aussi simple que ça. Fait que le hockey joué par les femmes a sa place, puis on l'a vu qu'il y a un crowd pour ça, il y a un fan base pour ça. C'est des produits différents. Je veux dire, peut-être que je vais me faire lancer des rushs, mais je coach les deux. Les deux sont différents, puis les deux peuvent être consommés par une clientèle différente, puis ça, je trouve ça incroyable. Comme la NBA, la WNBA, c'est pas tout. Il y en a du monde qui veulent rien savoir des Lakers. Ouais. Les autres vont aller voir les Aces, justement, à Vegas ou peu importe. Fait que je pense que les deux ont leur place. Ça s'en va vers le mieux. Il y a beaucoup d'ajustements à faire encore. Il y a beaucoup d'améliorations, mais je pense que là, il y a une ligue qui est là pour être durable, qui est là pour rester. Puis ça va juste permettre aux jeunes filles de pouvoir se concentrer sur leur sport et non se dire, ben là, moi, je ne peux pas gagner ma vie dans mon sport. Non, non, là, tu peux gagner ta vie. Puis c'est pas comme joueuse, c'est peut-être comme marketing. Moi, j'ai la fille marketing de Montréal, Ariane. Elle a commencé en marketing dans notre ligue, la LSHL. Elle n'avait jamais fait ça de sa vie. C'est un passe-temps. Puis elle est arrivée, puis regarde, elle a eu la job là-bas, puis elle a vraiment fait une bonne job avec nous autres. Puis elle a tout appris dans la ligue l'été. Fait que, tu sais, elle, qui rêvait de jouer au hockey, elle n'a pas joué au hockey, mais Colin, elle a un job, je ne dirais pas les chiffres, mais un job qui peut la faire vivre temps plein là-dedans. Fait que je trouve ça exceptionnel là, pour ces jeunes femmes-là. Et maintenant, c'est des femmes de carrière dans leur sport, là, c'est génial.
Écoute, on pourrait vraiment en parler longtemps, là, de ton parcours, c'est tellement intéressant. Mais pour finir, je voulais te poser quelques questions un petit peu plus techniques sur pas nécessairement des goalies que tu coaches, mais juste en général. Fait que, tu sais, la première, puis j'en avais parlé un peu aussi avec Nathan Darvaux, qui a été notre premier invité à Dans le Mille, parce que c'est un gardien non conventionnel, plus petit, qui a besoin de mettre de l'argent, comme on dit, sur sa mobilité. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses des gardiens qui sont un petit peu plus flashy, donc comme à la Askarov, qui ne vont pas avoir peur de jouer loin devant leur filet, qui ne vont pas avoir peur d'aller prendre des risques avec la rondelle, tu sais, vraiment en confiance, mais que quand tu es coach, ils donnent un peu des crises cardiaques tellement ils ne jouent pas tout le temps collés à leur net. Là.
J'aime l'exemple de Askarov. T'en as-tu d'autres exemples? Je pense qu'il y en a deux.
Ça rosse un peu, mais c'est moins... Ça saute aux yeux, là. C'est vraiment, c'est flashy, là.
Non, je te dirais que moi, ma mentalité, sans nommer de gardien, tu sais, ma mentalité, il faut que tu aies un système. Il faut que tu aies un game plan, puis que tu respectes ce game plan-là. Par exemple, tu sais, sans nécessairement aller dans le trop technique, tu sais, comment tu vas jouer sur un rush? C'est un jeu qui, un rush, dans le fond, c'est une entrée de zone, un 2 contre 1, un échappé, un jeu qui vient vers toi. Un, c'est quoi ton game plan pour ce type, sur ce type de jeu-là? Après ça, c'est quoi ton game plan pour un no zone play, un jeu qui joue dans ta zone, que ce soit un piqué ou un 5 contre 5 dans ta zone? T'sais, moi, c'est là-dessus que je développe mes gardiens de but. C'est de bien comprendre les types de situations. Puis, certaines situations, je vais leur dire, hey, express yourself. T'sais, si tu rates un Askarov, over-challenger, un Martin Brodeur, un two-pad stack, do it, that's you. Mais d'un autre côté, moi, je pense qu'il faut une structure. Parce qu'un gardien de but, on va dire Askarov, qui n'a pas de game plan, qui n'a pas de structure, qui va juste par ses réflexes, qui va juste par son agressivité, sa combativité, ça a une certaine limite. Puis cette limite-là, on l'a vu année après année, que ce soit junior majeur, que ce soit dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, il y a une limite. Ces gars-là, malheureusement, ils n'en font pas de carrière. Versus, il y en a un. Puis là, don't get me wrong, quand je dis ils n'en font pas de carrière, je ne parle pas des Martin Brodeur du temps, là. Je parle dans la game d'aujourd'hui, comment les gardiens de but sont analysés, comment que tout est mathématique et c'est un jeu d'échecs. Je pense que ces types de gardiens de but-là, si à un certain point dans leur carrière, ne structurent pas leur game, ils auront pas de. Ils seront pas capables d'avoir du succès à long terme. Versus un gars comme tu as dit, Saros, mais au contraire, Saros, c'est un gars qui a un game plan. C'est le. En tant que goalie coach, tu regardes sa game, tu sais exactement c'est quoi son game plan. Quand c'est le temps de faire le gros arrêt, il le fait. Mais dans certains types de jeux, il a son game plan. C'est pas pour rien que c'est un goalie de 5 pieds 10. On parle de Darvaux, mais un petit gabarit. Saros, c'est 5 et 10. Si je ne me trompe pas, pendant 10 ans en carrière dans le pro, il y a 918 d'efficacité. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Est-ce qu'un Askarov est capable de faire ça? Comment qu'il goal en ce moment? Je te dirais que non. Mais il y en a d'autres goalers dans la ligue que oui, parce que Colin, ils ont une structure, sont athlétiques, sont combatifs, mais ils ont un game plan à la fin de la journée.
Fait que tu dirais-tu que, admettons, tu sais, je sais pas si tu en regardes un peu là, des gardiens de but qui arrivent pour le repêchage. Ben, forcément, tu en regardes un peu parce qu'il y en a qui jouent dans ta ligue, là, mais tu sais, des gardiens qui arrivent pour le repêchage, le plus gros drapeau vert qu'un prospect gardien peut avoir, c'est vraiment ça, là, la structure, voir comment est-ce qu'il joue chaque jeu, que ça soit pas différent à chaque fois, que tu vois qu'il y a un plan dans sa tête.
Oui, exactement. Puis, tu sais, comme le plus simple que je peux l'expliquer, c'est un, les recruteurs, ce qu'ils veulent savoir, ou ce qu'ils regardent surtout, est-ce que le gardien de but lit le jeu? Est-ce qu'il lit bien le jeu? Puis, est-ce qu'il prend une bonne décision? Parce que c'est beau, comme nous, il y a beaucoup de gardiens de but que j'ai eu, que c'était pour lire le jeu, ils étaient excellents, mais leur décision n'était pas bonne. Puis c'est ça que tu travailles avec eux. Fait que il faut que tu pinpointes exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, puis ce qu'ils ont besoin pour aller au prochain niveau. Puis dans la Ligue nationale, quand tu fais un draft, un, je ne te cacherai pas, Renaud, tu regardes la shape. Six pieds 3 et plus, tu le regardes. Si 6 pieds 3 et plus, est-ce qu'il lit bien le jeu? Est-ce qu'il prend des bonnes décisions? Est-ce qu'il y a un game plan? Est-ce qu'il est raw? Est-ce qu'il est. Tu sais, puis après ça, tu t'informes sur l'individu. Les recruteurs de la NHL, c'est leur job. Fait qu'eux autres vont appeler le goalie coach. Ils vont appeler les coachs en chef, les assistants. Ils vont appeler peut-être même le GM. Ils vont appeler tout le monde. Ils vont faire leur recherche. C'est qui l'individu? Sois une bonne personne, travaille fort. Puis si tu as les attributs, bien sûr, là, c'est un beau cocktail pour avoir du succès.
Puis là, écoute, je suis vraiment curieux d'avoir ta perspective là-dessus parce que moi, cette saison, ce que j'ai fait un peu de nouveau pour sur la bande, c'était des interviews avec les joueurs toutes les autres années. L'année dernière, on avait fait des interviews d'après repêchage. Fait que tu sais, comment tu te sens dans ta nouvelle équipe, comment t'étais. Mais là, cette saison, je voulais essayer quelque chose des interviews d'avant repêchage, comment le joueur se sent dans sa saison pendant qu'il joue. Puis beaucoup des joueurs d'attaque que j'ai passé en entrevue, je leur posais la question, comment est-ce que tu fais pour battre un bon gardien. T'sais, on a vu des Backman qui ont super bien performé à LHGMQ, mais qui performaient aussi super bien à QM18. Puis, je suis curieux d'avoir un petit peu ton côté de la médaille là-dessus en tant que coach de gardien de but. Eux, ce qu'ils me disent beaucoup, c'est je veux faire bouger le bon gardien. T'sais, un gardien qui est stable, qui est justement, comme tu dis, qui a un système qui va être difficile à battre. Je veux le faire bouger, je veux faire des passes, je veux faire des mouvements rapides dans zone offensive. C'est comme ça que je vais réussir à le battre. En tant que coach de gardien de but, comment est-ce que tu prépares un gardien à ça?
Un mot, c'est patience. T'sais, tu l'as dit, t'sais, on parlait tantôt du jeu d'échecs. Si moi, je veux précipiter un move, J'ai mordu, tu m'as battu. Fait c'est la même affaire au hockey. Les meilleurs gardiens de but, c'est ceux qui sont patients. Puis la patience vient de où? Sa lecture de jeu, sa prise de décision. Ça revient à la même affaire. Fait si, mettons, tu parles de Lucas Beckman. Lucas, je l'ai coaché plus jeune.
Ah ouais?
Lucas, en passant, c'est un jeune homme exceptionnel. Ouais. Ses parents sont incroyables et tout. Dans les dernières années, je l'ai pas. Nos chemins se sont croisés. Là. Je pense qu'il a été passé là, une ou deux fois, qui est venu sur la glace avec nous, mais il y a ses entraîneurs de gardiens que je respecte. Puis, tu sais, Lucas, il est exceptionnel, ce jeune-là. Je crois qu'il va avoir beaucoup de succès dans la ligue. Mm-hmm. Il est même venu à notre tournoi Make Your Move là, l'été passé. Mais, tu sais, ces jeunes-là, ou j'ai ces jeunes-là, ces gardiens de but de tous niveaux, tu vas avoir du succès. Laisse le joueur vouloir te faire bouger. Là. Laisse-le, ouais. Make him get horny. Là. Puis là, toi, ouais, tu sois patient, attends, puis ça va bien aller. Là.
Puis, écoute, une dernière question en tant que perspective de coach un peu. Là, encore une fois, c'est une question que je pose aux joueurs. Tu sais, justement, on a eu Lucie au podcast, Ariane Leblanc, qui ont toutes, Gabriel Santin aussi, qui ont eu toutes des joueurs qui ont eu des expériences avec justement des camps de Team Canada. Ariane Leblanc, elle a joué au U18. Puis, tu sais, on se fait dire, oui, ça change beaucoup parce que, tu sais, c'est peu de temps, mais c'est vraiment intense. Toi, c'est sûr que ça varie de gardien ou bien de gardien en gardienne, ça change, tu sais, chaque humain est différent, mais à quel point est-ce que tu trouves qu'un joueur revient avec beaucoup plus de bagages quand il revient d'un tournoi comme ça? Tu sais, est-ce que tu vois vraiment une différence quand tu les coaches avant puis après, tu sais, ces 2-3 semaines-là où ils ont été joués pour Team Canada?
C'est un bagage. Tu sais, le bagage, ça va dépendre aussi du jeune, à quel point il est motivé pour revenir avec un bagage. Tu sais, juste te donner une idée, Sam... Il est allé à Team Canada U20 là, cette année en Suède. Puis il n'a pas goalé une game.
Ouais.
Mais on se parlait quasiment à chaque jour. On s'envoyait des textos. Puis le fait de pratiquer avec les meilleurs joueurs au monde, ça lui a permis justement d'être plus patient sur certains jeux. Le fait de voir c'est quoi l'éthique de travail de ces gars-là qui sont plus matures, puis ça l'a aidé. Fait que si tu veux, tu vas là-bas. Avec l'optique de devenir meilleur, tout est là devant toi sur un plateau d'argent, tu vas devenir meilleur. Mais si tu t'en vas là en disant non, mais c'est moi le meilleur, je suis Team Canada, je mets le chandail. Puis tu sais, je te donne une idée, je m'en vais avec Team Québec, là, U18 féminin, là, au mois de octobre, me semble. On a un camp juillet, octobre, puis les Nationals sont au mois de novembre. Tu sais, mon plan de match avec mes gardiennes, il est fait, puis je peux-tu te dire qu'ils vont en apprendre pas mal, mais moi, ma job, ça va être aussi d'avoir une relation avec leur goalie coach pendant la saison, tu sais, pour avoir des touch base, puis aussi les aider, comme à Team Canada, c'était Justin Poggi, qui était le coach de goaler là, pour le U20, puis on se textait à chaque 2-3 jours, il me posait des petites questions sur Sam, puis c'est ça aussi que les coachs, on est là pour ces jeunes-là. Fait que les ressources là, sont amplifiées. T'as les meilleurs coachs, t'as les meilleurs, le meilleur environnement. J'ai les meilleurs coachs, mais pas tout le temps, là, mais t'as le meilleur environnement, t'as le meilleur. J'en vais pas dans ce sujet, ça va pas être long, là, mais non, sérieusement, tu sais, je veux dire, t'as tous les outils, t'as toute la crème qui est là pour toi. Mm-hmm. Fait que c'est à toi de sauter à pieds joints là-dedans là, pour en faire d'une expérience là. Enrichissante puis que tu deviennes meilleur.
Mais écoute, pour finir, j'aimerais ça te poser une question un petit peu plus hypothétique. Là, admettons, on rêve, c'est quoi qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu aimerais ça plus focusser sur ton école de hockey Paramount ou bien le but à la fin de la journée, si tu pouvais, ça serait d'aller coacher à un niveau plus haut, soit LNH, AHL au niveau masculin ou bien PWHL au niveau féminin?
Bien, premièrement, tu peux me souhaiter mon petit gars qui va arriver au mois d'octobre qu'il soit en santé puis pas gardien de but. Ça, c'est les deux, là. Pas gardien de but, il est même plus important que... Fait que ça, c'est les deux points. Non, je fais des blagues, mais je te dirais que, tu sais, notre école de gardien de but Paramount, ça va très bien. On aide les jeunes à devenir des meilleures personnes. T'as 0,001% qui vont devenir pros. 100% des jeunes filles, des jeunes garçons vont devenir des hommes et des femmes de demain. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est comme un peu ma mission de vie, c'est d'aider les jeunes. T'sais, c'est d'aider la prochaine génération. Puis tous nos coachs, nos 9 coachs qu'on est là, c'est exactement ça. Fait que Paramount, je te dirais qu'il est très proche de mon cœur.
Ouais.
C'est une business. Puis j'ai une business. Oui, c'est une business, mais c'est un projet qui va que j'y souhaite d'aider le plus de jeunes possible. Si on est à 600 cette année, j'espère à 800 l'année prochaine, puis l'année d'après à 1000, puis continuer. Écoute, on est à Vegas, on est au Québec, on est un peu partout. Ça, c'est un. Personnellement, j'ai pas justement, là, c'est un petit coup, je te dis, j'ai refusé plusieurs offres avant, okay, parce que j'étais pas prête à partir de Paramount. Mais là, mes coachs, je sentais qu'ils étaient super matures, super prêts à prendre la relève. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté là, à Sherbrooke. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps mis notre équipe, nos boys, nos girls, mm-hmm, avant mon succès personnel. Ouais. C'est certain que je te cacherai pas que je veux coacher pro. Je le sais que j'ai ce qu'il faut pour coacher pro. T'sais, un gardien, il faut qu'il soit confiant, le coach aussi.
Ouais.
Il m'en manque à apprendre. J'ai beaucoup appris cette année, je veux apprendre encore plus. Si à chaque jour, je peux devenir meilleur de 1%, je vais être satisfait. Mais comme je dis à mes goalers, trust the process, ça va arriver. Puis si c'est dans la Ligue américaine, c'est dans la Ligue américaine. Si c'est dans la NHL, c'est dans la NHL. Si c'est dans la PWHL, ça va être dans la PWHL. Je veux dire, la vie va m'amener où qu'elle va m'amener. Mais moi, je focus juste je focus même pas sur ce but-là. Je focus vraiment à moi, aujourd'hui, comment je deviens 1% meilleur. Puis le reste, ça l'arrive pas, je suis pas heureux, puis je vais figure it out quand même, là. On a assez de projets sur la table pour bien m'occuper.
Ben, écoute, Ali, j'aime beaucoup ta mentalité, puis ça a été super le fun de parler avec toi. Tu sais, d'habitude, nos épisodes sont 30 minutes, là, on est rendu à 50, fait que c'est toujours un bon signe, ça. Je te remercie d'avoir pris le temps dans ton été, là. Ça doit faire du bien après coacher deux équipes. Je te souhaite le meilleur pour la suite, puis en espérant pouvoir te reparler, te recevoir au podcast à un autre moment donné.
Ben, merci Renaud à toi, puis merci aussi de faire ce podcast-là pour aider justement des Gabriel Santerre, des Nathan Darvaux, des Ariane Leblanc de se faire valoir. Fait que continue ta bonne job, puis n'hésite pas, t'as besoin de quoi que ce soit, je suis à un numéro.
Merci Olivier, bonne soirée.
Salut, bonne soirée à toi.